Je reviens peut-être, Olivier, avec toi, puisque tu nommes dans un de tes chapitres, tu l'intitules comme ça, du trop de réalisme. Donc on est dans une question esthétique à un moment donné. Ce titre de chapitre fait référence à un ouvrage important pour toi, pas que pour toi, qui est celui d'Annie Lebrun, qui s'appelle « Du trop de réalité », où, tu vas en parler mieux que moi, mais où finalement elle pointe du doigt cette espèce de soumission, d'allégeance comme ça qu'on fait à la réalité, la façon aussi dont la réalité a annexé aussi nos imaginaires. Et évidemment, cette réalité est celle du monde néolibéral, capitaliste, etc. Et de celui de la société de consommation. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette chose que tu pointes qui s'appelle du trop de réalisme et qui est un enjeu, me semble-t-il, esthétique, justement?
Oui. Le livre d'Annie Lebrun, c'est un livre effectivement. Donc Annie Lebrun, c'est une. Elle supporterait pas qu'on dise écrivaine ou poétesse. Donc c'est une écrivain et une poète qui a été très proche du mouvement surréaliste et des dernières années du mouvement surréaliste d'André Breton. Elle a par ailleurs vécu très longtemps avec un très grand dramaturge qui s'appelle Radovan Ivzik, qui est édité chez Gallimard, 2 minutes de publicité, mais qui est un dramaturge absolument magnifique dans la lignée de Jarry. Et Annie Lebrun a écrit effectivement en 2000, donc elle a publié l'année dernière un livre qui a eu un gros retentissement sur le marché de l'art contemporain, qui s'appelle « Ce qui n'a pas de prix », et qui est un livre très beau puisqu'elle se pose la question est-ce que ce qu'on appelle l'art contemporain, Jeff Koons et compagnie, tire cette laideur-là, n'a pas pour projet de nous habituer à la laideur de nos vies. Et donc de penser stratégiquement une partie de l'art contemporain comme l'allié manifeste et radical du capitalisme le plus barbare. Nous acceptons l'enlaidissement de nos existences, de nos villes et de nos vies. Il y avait un slogan en 1917 qui s'appelait « Changer la vie, changer la ville » et qui a à voir avec ça. Donc ce livre s'appelle « Ce qui n'a pas de prix » et qui est un livre, je trouve, extraordinaire chez Stock. Et pas chez Gallimard. Je dis ça parce qu'elle est éditée chez Gallimard, mais Gallimard est la propriété de M. Bernard Arnault. Et donc en 2000, elle a publié un livre qui s'appelle « Du trop de réalité ». Je raconte en deux mots le titre parce qu'il est important. « Du trop de réalité », dont je vous ai dit, Annie Lebrun, c'est une compagne de route des surréalistes. Et « Du trop de réalité » fait référence à un texte d'André Breton des années 30 qui s'appelle « Du peu de réalité ». Et je trouve intéressant que dans les années 30, Breton dise « Le problème, c'est le peu de réalité. La réalité est insaisissable. Elle se passe. » Il a une formule magnifique, il dit « L'histoire tombe au dehors comme la neige. » Une magnifique formule. Et nous sommes en manque d'histoire. Et c'est très beau de le dire dans les années 30. L'histoire fuit. 70 ans après, au nom des mêmes principes, c'est-à-dire repassionner la vie, une révolte intraitable, Lebrun dit, nous ne sommes plus à l'époque du peu de réalité, nous sommes à l'époque du trop de réalité. C'est-à-dire que le signe s'est inversé. Ce qui à l'époque était un manque est aujourd'hui un trop, dans le même principe que, encore une fois, c'est une histoire de... Ce qui est passionnant, c'est que les formes et les effets de domination de la domination sont mouvants. Et qu'une partie d'ailleurs, moi, que je peux reprocher avec beaucoup d'affection, parce que c'est pas moi qui le fais et j'admire beaucoup les artistes, mais c'est de travailler sur les œuvres comme si le monde n'avait pas changé, en pensant les effets des œuvres politiques comme si nous étions encore dans les années 60, alors que le monde a fondamentalement changé, ne serait-ce que affectivement. Nous ne sommes pas dans les mêmes affects que les années 60. Dans les années 60, je peux comprendre qu'il faille révéler à l'individu la précarité de son existence, la finitude de la vie, donc venir le réveiller, le maltraiter, le spectateur. Aujourd'hui, personne, à part quelques bourgeois et quelques rentiers, ignore la précarité de la vie et sa finitude. Donc peut-on fonctionner sur les mêmes principes et les mêmes fonctions pour l'art qu'il y a 50 ans? Fin de la parenthèse. Et donc Lebrun, en 2000, pointe du doigt cette question de la réalité avec ce livre, « Du trop de réalité » qu'on trouve en poche chez Folio, qui est un livre très beau qui commence par une question. La question c'est, est-ce que la destruction de la forêt amazonienne n'a pas quelque rapport avec la destruction de nos imaginaires? C'est-à-dire que la pensée d'Annie Lebrun est une pensée analogique, par là elle rejoint les romantiques allemands et notamment Novalis, c'est-à-dire passer d'une idée à une autre par rapport d'analogie. Et donc, pour moi, l'importance du livre de Lebrun, c'est que c'est, à ma connaissance, la première, elle a été très proche de Guy Debord aussi, mais elle a une pensée autonome je suis en train de... Voilà. C'est pas parce qu'elle a fréquenté Breton et Debord qu'elle était sous tutelle de quelques hommes. Elle a une pensée autonome. Et pour moi, Le Brun, c'est la première, d'un point de vue poétique, à venir penser la question des méfaits du capitalisme, du néolibéralisme, du point de vue de, je la cite, « le crime sensible qu'il est en train de commettre ». Quelque chose porte atteinte à nos imaginaires, quelque chose porte atteinte à notre intériorité. Et je fais une parenthèse, là, le livre dont tu parlais, je parle d'art, je parle d'intériorité, je parle de grâce, et Mediapart dit « oh là, c'est un peu des arguments de droite, ça ». Bon, évidemment que... Alors, je suis blessé, qu'on puisse imaginer. Je trouve ça insultant. Mais je trouve ça très, très révélateur et emblématique. Nous avons accepté de nous laisser déposséder de la beauté, de l'art, de la grâce, de l'intériorité, de l'individu. Je rappelle quand même la fin du manifeste du Parti communiste de Marx. C'est le libre développement de chacun et la condition du libre développement de tous. Et donc, le travail de Le Brun, c'est de venir dire « la réalité est aujourd'hui envahissante ». Je lis ce livre, encore une fois, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué, comme tout ce qu'elle a pu écrire, et puis je regarde. Je regarde les œuvres, je regarde les œuvres de théâtre, j'écoute les discours des artistes, et je vois, depuis une dizaine d'années, une sorte de fétichisme de la réalité. Alors, ça ne veut pas du tout dire, parce que les exemples de spectacles que je défends et qui m'importent sont des spectacles qui parlent de la réalité. C'est le spectacle de Françoise Bloch, c'est le spectacle d'Adeline Rosenstein sur la question de Palestine et sur ce que subit le peuple palestinien avant Israël. C'est les guerres impérialistes de l'Europe, etc. C'est, bon. C'est le spectacle de Maddy Marin, donc je ne suis pas du tout pour un spectacle qui irait, pour du théâtre, qui irait planer dans le ciel étoilé des idées, qui retrouverait les éthers, je ne sais pas quoi. La question, c'est évidemment pas de dire l'argot les amarres, et pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. La question, c'est d'essayer de regarder comment ça consonne bizarrement ce fétichisme de la réalité, et cette idée qu'à partir du moment où l'on a trait à la réalité, ça fait de la politique. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne crois pas que parce que cela a trait à de la réalité, cela produise nécessairement la politique. Il y a une manière d'abdiquer tout regard critique devant la réalité. Il y a une manière de donner au dernier mot la réalité, et c'est le discours même du néolibéralisme. On pourrait dire le maître mot du néolibéralisme, encore une fois, je pense qu'on en parlera tout à l'heure pour essayer de penser ce que ça peut vouloir signifier, mais l'un des mots d'ordre du néolibéralisme, c'est la phrase de Thatcher dans les années 80, « il n'y a pas d'alternative ». Nous vivons dans cette réalité et il n'y a pas d'alternative à cette réalité. Et me semble-t-il, encore une fois, ça n'est pas s'empêcher de parler du monde qui nous environne, mais parler du monde qui nous environne, ça n'est pas acquiescer à la réalité. C'est précisément venir diviser et cliver cette notion de réalité. Pour moi, la politique, elle commence quand dans un débat, deux personnes sont là et discutent, et que quelqu'un dit « bon, bah, y a quand même un gros problème, la dette en Grèce, etc. » et que l'autre dit « je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un problème ». La politique, si vous commencez à dire « ok, il y a vraiment une dette en Grèce, on va essayer de la résoudre », vous êtes foutu. Vous rentrez dans le consensus. Donc la question, c'est comment cette notion de réalité, on vient la cliver, on vient la casser, et on vient opposer à une réalité, une autre réalité. La réalité aujourd'hui de la bourgeoisie financiarisée qui dirige ce pays n'est pas la même réalité que celle des Gilets jaunes. Et c'est précisément sur un travail de clivage, de division du terme, me semble-t-il, qu'on peut renouer avec des propositions politiques, et pour là, commencer aussi à se réapproprier des subjectivités, du goût pour la vie, etc. etc.